Amen. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe au chapitre 40. Et nous voulons continuer une prédication qui a été entreprise il y a 2 semaines maintenant, avant le passage de notre frère Michel au milieu de nous entre-temps. Voilà. Donc, Ésaïe 40, nous relisons ces versets 9 à 11. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Et nous relisons ce verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Voilà, donc il y a peu de temps, nous avons parlé du Seigneur Jésus en tant que berger. Et nous avons vu, rappelez-vous, 5 bergers de l'Ancien Testament qui annonçaient la venue du berger parfait qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va faire une petite récapitulation. Nous avions vu Abel, le berger, assassiné. Vous vous souvenez, Abel, le berger assassiné, un berger haï sans cause par son frère, un berger qui a arrosé l'autel du sang, du sacrifice, par son propre sang, un berger dont le sang parle encore. Un berger ayant reçu le témoignage divin à sa justice, et nous voyons combien tous ces caractères se trouvent à plus forte raison parfaitement en Jésus-Christ. Et puis nous avons vu aussi ensuite Jacob, le berger, au travail et à la peine. Hein, rappelez-vous de cela. Et donc lui, l'héritier, a abandonné la maison de son père. Il est allé chez les frères de sa mère, comme Christ, chez ceux qui, par sa mère, sont les siens. Et puis, il a eu aussi une grande vision de cette communication qu'il y avait entre la terre et le ciel, cette échelle, rappelez-vous, hein, cette échelle donc qui représente Christ. Et il a travaillé aussi. Jacob a travaillé pour acquérir son épouse et par amour pour elle. Et il a travaillé pour acquérir son troupeau. Et son travail a été compliqué, son travail a été extrêmement difficile. Et quand il a eu fini ce travail épuisant, il a conduit ce troupeau, son troupeau et sa famille, loin de Laban. Et dans toutes ces choses aussi, nous voyons de merveilleux caractères du Seigneur Jésus exposés encore plus parfaitement dans sa vie. Et puis nous avons eu en troisième, rappelez-vous, c'était qui ? Joseph. Voilà, Joseph, le berger qui règne en Égypte pour le bien du peuple de Dieu. Rappelez-vous de cela. Comme Christ est puissant pour garder parfaitement les siens dans l'Égypte de ce monde. Hein, donc, vous rappelez, il a gardé le troupeau de son père avec ses frères qui étaient jaloux et envieux à l'époque, ça c'est dans sa jeunesse. Il a porté à ce moment-là une tunique qui marquait sa préférence devant son père, comme Christ est aussi préféré, a été préféré et préféré devant le Père. Et il a été critiqué dans ses paroles prophétiques par ses frères. Comme Jésus, rappelez-vous, a été traité aussi de blasphémateur. Il a été faussement accusé lorsqu'il était en Égypte aussi. Il a été en prison un temps, comme Christ a été dans la prison du tombeau. Et il est sorti de prison pour être établi sur tout le pays d'Égypte, comme Christ est sorti du tombeau pour être établi sur toute chose. Et il a eu une pleine autorité dans toute l'Égypte, et ça a été un très grand avantage pour les Égyptiens, bien sûr, comme Christ est un grand avantage pour le monde pécheur, même s'ils sont malheureusement loin de s'en rendre compte la plupart du temps. Et il a été aussi établi pour l'objectif particulier de sauver le peuple de Dieu, hein, donc de les amener, donc de les sauver de la famine en ce temps-là, et particulièrement ce peuple de Dieu qui est en abomination au monde, comme les bergers étaient en abomination aux Égyptiens, hein, donc là aussi. Donc nous voyons là, discernons bien les différents parallèles qu'il y a entre Joseph et Jésus-Christ. Et puis Moïse, le berger qui sépare le troupeau, donc ça représente Christ qui est aussi le berger d'un troupeau séparé. Déjà au départ, eh bien, nous savons qu'il gardait ses brebis loin de tout autre troupeau quand il était dans le désert avec son beau-père Jéthro. Voilà. Et nous savons qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Là aussi, il a fait une séparation, de la même façon que Christ a résisté à la tentation dans le désert, rappelez-vous. Et puis, il a commencé sa mission en disant à Pharaon, au nom de Dieu, au nom du Seigneur, « Laisse aller mon peuple afin qu'il le serve, qu'il me serve. » pardon. Donc ça, c'est encore une séparation. Et par la puissance de Dieu, nous savons qu'il a opéré de grands prodiges pour qu'il ne reste pas en arrière, même pas un ongle appartenant à ce peuple de Dieu. Et c'est aussi ainsi que Christ agit pour se faire un peuple mis à part, sanctifié et zélé pour de bonnes œuvres. Il a été un berger extraordinaire pendant tout l'exode, le grand exode du peuple, et dans toutes ces choses, il préfigure Christ, un berger plus extraordinaire encore. Et puis nous avons parlé enfin de David, tout à fait, David le berger qui est établi au milieu du troupeau, de la même façon que Christ règne au milieu des siens. Là aussi, David, comme Christ, a commencé sa vie dans bien des épreuves, bien des périls. Mais finalement, il est monté sur le trône, il a été établi comme roi sur Israël, sur Juda, et ceci nous parle de la royauté de Christ qui est clairement établie dans son Église et sur son œuvre et qui sera bientôt manifestée pour tous les hommes. Voilà, ça c'était la récapitulation dans un premier chapitre. Mais voici maintenant un autre grand point, c'est trois descriptions, trois appellations, trois descriptions dans le Nouveau Testament. On a parlé de l'Ancien Testament, mais voici le Nouveau. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, le berger, est décrit de trois façons. Il est décrit comme le bon berger, comme le grand berger et comme le souverain berger. Voilà. Et je ne me souviens pas d'un autre qualificatif qui soit ajouté à son nom de berger. Donc, on va voir ces trois qualificatifs. Déjà le premier, le bon berger. Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et c'est vrai que la bonté, voilà une des excellences de Christ qui resplendit tout particulièrement dans sa vie terrestre et dans sa mort sur la croix pour les fils de l'homme. Mais quand je considère mon Seigneur et mon Maître dans ces moments, alors qu'il est méprisé et abandonné des hommes, je sais qu'il est le grand berger, hein, mais sa grandeur est moins visible, elle est moins frappante. Son troupeau est si peu nombreux. Hein. Nous lisons que le nombre de ceux qui étaient assemblés au début du livre des Actes était d'environ 120. Il nous est parlé à un autre moment d'un groupe de 500 frères, mais quand même, ça représente peu de choses par rapport à l'ensemble du peuple d'Israël qui était appelé. Hein. Et le Seigneur disait à son propre sujet, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour reposer sa tête. » Alors là, nous voyons de la bonté, mais la grandeur, elle est cachée quelque part, pour le moment, pour l'instant. Lorsque le Seigneur voyait ces multitudes, il est marqué qu'il avait compassion d'elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il guérissait leurs malades, il pleurait sur leurs péchés, autant de grandes manifestations de bonté, avec toutes les choses nombreuses, toutes les choses merveilleuses qu'il leur enseignait en même temps. Hein, donc, et quand il fut temps pour lui de mourir, eh bien, il traversa le torrent du Cédron et il souffrit là dans la nuit jusqu'à transpirer de grandes gouttes de sang. Et ensuite, il monta sur la montagne de la malédiction pour y souffrir, pour y verser son sang et pour y mourir. Voici le bon berger donnant sa vie pour ses brebis. Et qui pourrait dire jusqu'à quel point Jésus a été un bon berger? Qui pourra mesurer la hauteur et la profondeur de cet amour, de cette bonté extraordinaire qui était en lui? Si bon qu'il a sauvé les autres sans pouvoir se sauver lui-même, et si bon que quand il a rendu compte, il a pu dire « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. » Alléluia. Il les a tous parfaitement gardés, bien que lui-même ait baissé la tête pour rendre l'esprit. Donc, il est le bon berger. Mais il est aussi appelé, avons-nous dit, le grand berger. Alors, est-ce que c'est une référence, cela, à sa vie sur la terre ou à sa mort? Non, pas du tout, comme on peut le voir d'après le passage qui nous dit cela dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 20, nous lisons en effet « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, c'est-à-dire le grand berger, hein, c'est un pasteur, c'est un berger, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Donc, il n'est pas le grand berger tellement quand il meurt, il est le bon berger, mais il est le grand berger quand il est ramené à la vie d'entre les morts. Là, il est le grand berger. Et c'est dans la résurrection que nous pouvons commencer à discerner sa grandeur. Quelles extraordinaires manifestations de puissance accompagnent cette résurrection-là. Et voici donc ses disciples, par exemple, qui sont en train d'attendre la réalisation de sa promesse. Un vent puissant entre dans le lieu où ils sont réunis, et voici comme des flammes qui viennent sur chacun d'eux, et comme ils sont glorieusement baptisés du Saint-Esprit. Quelles transformations extraordinaires se produisent en eux, hein, et par sa puissance. En vérité, il est le grand berger qui est monté sur les hauteurs et qui a fait des dons aux hommes. Et c'est en tant que grand berger, qu'au milieu des acclamations des anges, il envoie, suivant leurs besoins, tout ce qui est nécessaire à ceux qui veulent le servir, à ceux qui veulent faire sa volonté. Amen. Il était le bon berger auparavant, il est toujours le bon berger, mais il est avant toute autre chose le grand berger, et ça aujourd'hui, et ça pour tout son peuple. Et notre passage nous dit que s'il est le grand berger, c'est aussi afin de nous rendre capables, de nous fortifier, de nous soutenir, nous rendre capables d'accomplir toute bonne œuvre selon sa volonté, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, afin que nous puissions être rendus victorieux en toutes choses. Amen. Et puis, Jésus est aussi le souverain berger. C'est notre troisième appellation dans le Nouveau Testament, puisque dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 4, nous lisons: et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Alors quand portera-t-il ce titre? Quand voilà, à son qu'il sera manifesté comme tel, alors apparaîtront avec lui, eh bien, tous ceux qui auront nourri ses brebis, tous ceux qui auront pris soin de ses agneaux, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, auront contribué avec lui à la conduite, à la protection, aux soins de son troupeau bien-aimé et racheté par son sang. Et remarquez qu'en tant que bon berger, il ne nous est pas dit qu'il a une couronne, il n'est pas dit non plus qu'il en est une en tant que grand berger, mais lorsqu'il apparaît maintenant, à ce moment-là, dans sa gloire avec sa couronne, alors il nous est dit que nous paraîtrons aussi avec lui dans cette gloire, avec une couronne glorieuse, une couronne incorruptible. Amen. Et dans tout ceci, donc, nous pouvons tirer particulièrement qu'il est bon, premièrement, dans sa mort, deuxièmement, qu'il est grand dans sa résurrection, et troisièmement, qu'il est souverain dans son retour. Hein, voilà. Alors, quelle bénédiction en découle pour nous, hein? Il est bon pour moi en tant que pécheur. Il est grand pour moi en tant que véritable chrétien. Il est souverain pour moi dans la communion avec lui, dans l'unité avec lui, dans l'enlèvement et dans la gloire éternelle qui vient. Amen. Alors que nous puissions donc d'une façon renouvelée nous engager en ce jour dans sa voie, devant sa voix, lui qui est pour nous le bon, le grand et le souverain berger. Amen. Alors nous avons encore en conclusion, notre troisième point, deux applications importantes de ces réalités de notre passage, de départ d'Ésaïe 40 au verset 11. Tout d'abord, voilà une grande pensée de réconfort et de satisfaction, hein, spécialement pour les brebis pauvres, faibles, fatiguées du troupeau. En effet, je reviens à mon texte d'Ésaïe 40, il dit « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. » Amen. Vous savez, les agneaux, eh bien, ils n'ont pas la valeur des brebis adultes, mais nous voyons que c'est de ces agneaux que le grand berger a le plus souci. Ils peuvent valoir moins au marché, mais ils ont une grande valeur, la plus grande valeur dans son cœur. Et s'il y a des promesses pour tous les chrétiens véritables, il y a des promesses particulières pour ceux qui sont troublés et pour ceux qui sont dans le besoin. Amen. Et Jésus veut prendre particulièrement soin des agneaux et des brebis qui ont des agneaux. Rappelez-vous de Jacob, dont nous parlions tout à l'heure comme étant le berger au travail, le berger à la peine. Hein, lorsqu'il rencontre Ésaü, son frère, et qu'ils ont réussi à se réconcilier par la grâce de Dieu, donc Ésaü lui propose de l'accompagner avec sa garde. Mais Jacob lui répond: « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche en un seul jour, tout le troupeau périrait. » C'est dans Genèse chapitre 33 et au verset 13. Jésus, le bon berger, ne veut pas avancer à un tel rythme que les agneaux soient distancés et ne puissent pas suivre. Alors c'est vrai, les puissants de la terre, ils vont chercher les intérêts des grands, des riches, mais le Seigneur prête avant tout attention aux pauvres et aux faibles qui se tournent vers lui. Alors retrouvons ce beau passage dans Ézéchiel 34, verset 16, où il est marqué « Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. » Amen. Vous savez, si une maman a plusieurs enfants, pour lequel est-ce qu'elle va s'inquiéter en priorité? Pour le premier, qui est parti de la maison, qui a réussi dans la vie, pour la fille qui est en bonne santé, dont les études vont bien, ou bien plutôt pour cet autre qui est de santé fragile et de caractère craintif. Poser la question, c'est d'y répondre. On sait très bien pour qui la maman va se faire le plus de soucis, pour laquelle elle va s'occuper avec le plus de sollicitude. Et bien, nous voyons et nous comprenons pourquoi le Seigneur prend ses agneaux dans ses bras et les porte sur son sein. Amen. Et puis nous avons aussi une autre application de notre texte, je dirais quelque part de réconfort et d'avertissement en même temps, parce que Jésus est celui qui va chercher les brebis perdues. Bien sûr, nous avons ce passage admirable de l'évangile de Luc au chapitre 15, au verset 4, lorsqu'il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ?» Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Amen. Et aujourd'hui, Jésus cherche les brebis perdues. Et s'il y en a que le Seigneur cherche aujourd'hui pour les amener, pour les ramener à lui. Mais il faut prendre garde aussi quand même, parce que ce même Sauveur qui va chercher les perdus, c'est aussi celui qui va prononcer la malédiction sur ceux qui ne veulent pas se repentir. Il est marqué qu'il va séparer les brebis d'avec les boucs. Et ces paroles, « Allez-vous-en maudits », sont ces mêmes paroles prononcées par ce même berger qui est allé chercher celle qui était perdue. Alors ça nous parle de la nécessité de venir au Seigneur ou de revenir à lui si nécessaire, suivant ce passage, ce dernier texte que nous lisons dans l'Épître de Pierre au chapitre 2 au verset 25. Et là il est marqué « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Amen. C'est vrai, où nos âmes seront-elles mieux que sous la garde, qu'au bon soin de ce merveilleux pasteur, de ce puissant et vigilant gardien, de ce berger si fidèle et si aimant. Et c'est pourquoi venez à lui et demeurez en lui, demeurons en lui dès maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Te remercions, Seigneur, parce que ta parole est encore vivante et agissante et parce que, Seigneur, tu es encore celui qui, au travers de cette image du berger que tu prends toi-même à ton propre sujet, nous enseigne encore, Seigneur, combien tu es rempli de bonté, combien tu es rempli de soins, combien tu es rempli d'amour réel à chaque moment. En même temps aussi, combien tu es rempli de grandeur, Seigneur, et combien tu as manifesté, tu manifestes encore cette grandeur et cette puissance. Et en même temps aussi, combien tu es le souverain, Seigneur, et combien tu es celui auquel toutes choses ont obéissance et soumission, Seigneur. Et merci parce que tu vas également manifester cela pleinement et béni sois-tu parce qu'en même temps tu nous placeras dans cette position de souveraineté avec toi et en toi. Et c'est pour cela, Seigneur, que dans ces moments encore maintenant, nous pouvons nous confier en ton nom parce que nous avons tout le soutien, tout le secours nécessaire dans ta présence bénie. Sois loué, sois glorifié notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen, Jésus. Amen. Je rappelle la prédication en ligne vendredi à 20h15 sur le site de l'église, encore pour l'instant. L'évangélisation dans les villages samedi, rendez-vous ici à 14h30, on va continuer les boîtes aux lettres. Le culte dimanche à 8h30, puis à 10h45. Si vous voulez y participer, inscrivez-vous s'il vous plaît sur le site ou par téléphone sans trop tarder. Merci. Voilà. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.